et bienvenue sur Radio J. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Comme tous les matins, ce vendredi 22 novembre 2024, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. 413e jour de guerre en Israël, 413 jours de captivité pour 101 otages à Gaza. Évidemment, comme chaque matin, nous allons commencer avec le journal. Etanit Belaïch est avec nous. Bonjour Etanit.
Bonjour Ilana.
Et bonjour Greg Labadie.
Et bonjour Ilana Ferradia.
À la réalisation. Comment ça va les amis?
Très bien.
Ça va très bien et vous?
Écoutez, moi je suis toujours un petit peu malade, mais ça va aller, le week-end va me faire du bien. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous les amis. Le journal dans quelques instants. Pascal Sunshine à Jérusalem pour l'actualité en Israël évidemment. Et puis à partir de 6h20, notre dossier d'histoire. Une page d'histoire du sionisme avec cette personnalité, Joseph Trumpeldor, qui malheureusement est une figure trop souvent oubliée, effectivement, du sionisme. On va en parler à 6h20. Vous restez avec nous, 6h46. Nous serons aussi avec Robert Regnès, directeur du CRIF, pour ces chiffres qui ont été dévoilés cette semaine. 12% des Français seraient antisémites. On en parle avec Robert Regnès. Et puis, avant 7h, avec le collectif Nous Vivrons, nous serons avec Sarah Eisenman. Un appel à la manifestation demain. Gare du Nord, à tout à l'heure. Actualité, 413e jour de guerre donc en Israël. Il avait 19 ans, le sergent Ron Epstein est mort au combat à Gaza.
Il s'agit du 804e soldat de Tsahal tué depuis le 7 octobre, originaire de Necher. Ron Epstein faisait partie de la brigade Givati. Il a été tué à Jabalia par des éclats d'obus. Deux autres soldats ont été légèrement blessés au cours de ce combat. Et puis au nord, hier à Nahariya, un civil israélien a été tué et plusieurs blessés suite au tir de roquettes du Hezbollah contre la Galilée. Le groupe chiite a lancé une quarantaine de roquettes vers le territoire israélien. Par ailleurs, une salve de 5 projectiles a été tirée vers Haïfa dans la nuit. Aucun dégât n'a été signalé.
Et puis au nord, les opérations de Tsahal se poursuivent avec une série de frappes menées hier à Dahriye,
soit la banlieue sud de Beyrouth. Un dépôt d'armes, des centres de commandement et d'autres infrastructures utilisées par le Hezbollah ont été détruites. Pendant ce temps, les négociations pour un cessez-le-feu au Liban se poursuivent. Des progrès ont été signalés selon Amos Hochstein, l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient. Après son voyage au Liban, le diplomate a rencontré hier en Israël le chef de l'exécutif israélien ainsi que son ministre de la Défense et le chef d'état-major de Tsahal.
Un jour noir pour la justice. Réaction hier de Benjamin Netanyahou suite à la décision de la Cour pénale internationale contre lui.
Hier, la CPI a en effet émis des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien mais aussi son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Des mandats émis pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre selon la juridiction. En réaction, le chef du gouvernement israélien a dénoncé une décision politique et antisémite. Écoutez.
Le tribunal international de La Haye, qui a été créé pour protéger l'humanité, est aujourd'hui devenu l'ennemi de l'humanité. Ce tribunal partial a décidé d'émettre des mandats d'arrêt contre l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, et moi, au faux motif de crime contre l'humanité, alors qu'en vérité, nous faisons tout le contraire. C'est une faillite morale. Cela viole le droit naturel de l'humanité. Les démocraties doivent se protéger du terrorisme meurtrier. Le même tribunal, qui nous accuse de crimes fictifs, ignore les véritables crimes de guerre. Des crimes de guerre choquants, commis contre nous et contre bien d'autres dans le monde.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui ne pourra pas compter sur le soutien de la France, tout comme les Pays-Bas ou encore l'Italie et le Canada, qui ont annoncé qu'ils appliqueraient ces mandats d'arrêt à la lettre. Écoutez Sébastien Lecornu, le ministre français des Armées, hier sur CNews.
En aucun cas, ces mandats d'arrêt qui sont personnels contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant ne doivent conduire à remettre en cause le fait que l'État d'Israël a le droit de se défendre et que ce droit de légitimité défense est un droit issu justement du droit international. Le même droit international dit aussi des choses, notamment évidemment en matière d'accompagnement, en matière de lutte contre les famines, en matière d'accompagnement sanitaire, dans la manière même de faire cette guerre, c'est-à-dire sur les dommages collatéraux sur les victimes civiles. Et donc ça sera évidemment à la CPI de faire ce travail, en droit de justifier aussi ces mandats d'arrêt pour venir expliquer pourquoi ils ont été émis. Moi je ne veux pas évidemment me prononcer là-dessus, mais il est clair que des explications seront à donner.
Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.
Et Israël bénéficie néanmoins de l'appui de plusieurs pays, dont les États-Unis.
Nous serons toujours aux côtés d'Israël face aux menaces qui pèsent sur sa sécurité, a assuré hier soir le président américain Joe Biden, qui a jugé scandaleuse cette décision. Idem du côté du Royaume-Uni, qui affirme rejeter l'équivalence morale entre Israël et les groupes terroristes que sont le Hamas et le Hezbollah. L'Argentine, la République tchèque et la Hongrie ont aussi manifesté leur soutien à l'État hébreu. Cette décision déshonore la justice internationale, selon le chef de la diplomatie hongroise.
Le reste de l'actualité, c'est la guerre en Ukraine avec une nouvelle frappe de missiles balistiques russes sur la ville de Dnipro.
Un missile qui ne portait pas de charge nucléaire et qui visait, selon Moscou, un site du complexe militaro-industriel ukrainien. Un nouveau développement inquiétant, a estimé le secrétaire général de l'ONU.
Et puis enfin, l'actualité en France, il détenait de nombreuses armes à feu. Trois hommes, dont deux liés à l'ultra-droite, arrêtés près de Lyon.
Parmi eux, un père de 59 ans et son fils de 29 ans, membre du groupe Égalité et Réconciliation de l'antisémite Alain Soral, condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine. Les trois hommes seront présentés aujourd'hui à un juge.
Merci beaucoup Etanit, on vous retrouve tout au long de cette édition sur Radio J. Et merci de nous rejoindre pour la météo ce vendredi, gare à la neige. Des giboulées de neige se produisent au nord de la Loire avec un vent assez froid. Attention au verglas également. Ailleurs, le temps est sec, hormis sur la Corse où des averses se produisent avec beaucoup de vent également. Et puis dans l'après-midi, de la neige encore en Île-de-France notamment. Quelques éclaircies toutefois sur la moitié nord. Il fait toujours très frais, donc 4 degrés à Paris, 12 à Perpignan, ce sera le maximum, 2 à Strasbourg, le minimum. Et puis en Israël, le soleil au rendez-vous, 23 degrés à Jérusalem, 24 à Haïfa, 27 à Tel Aviv, 29 degrés à Eilat.
Radio J, le 6-9, Hélène Ferradian.
Vous nous rejoignez comme chaque matin et toujours en direct. Et vous le savez, on commence cette matinale, un des premiers rendez-vous, c'est avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal.
Bonjour Ilana.
Merci Pascal d'être avec nous ce matin. Alors c'est vrai que depuis quelques jours, malheureusement, nous n'annonçons pas de très bonnes nouvelles. Et encore ce matin, on l'a appris hein, hier, la mort d'un jeune soldat de 19 ans.
Oui, le premier sergent Ron Epstein, 19 ans, tombé hier dans un accrochage contre le Hamas à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, ce qui porte à 804 le nombre de soldats et soldates de Tsahal tombés depuis le 7 octobre 2023. Et hier, les bombardements du Hezbollah ont fait une nouvelle victime, Brian Director, 27 ans, tué par l'explosion d'une roquette à Naharia. Il n'avait pas eu le temps de se mettre à l'abri. La ville de Haute-Galilée a été visée par 25 roquettes au cours de la journée. Et la nuit n'a pas été plus calme. Une salve de 5 roquettes a visé Haïfa. 3 personnes ont été légèrement blessées. Plus tôt dans la soirée, un drone tiré par les milices pro-iraniennes en Irak s'est abattu dans le centre du Negev et un missile balistique tiré depuis le Yémen a déclenché les alertes dans la région de la Mer Morte et en Judée. Il a été intercepté par la défense antimissile avant son entrée dans l'espace aérien d'Israël. Et Tzahal a poursuivi ses opérations contre le Hezbollah au Liban. Cette nuit, l'artillerie israélienne a pilonné des sites de la milice chiite à Nabatieh. L'aviation de Tzahal a également effectué de nouvelles frappes à Beyrouth et dans la Bika contre des dépôts d'armes du Hezbollah.
Alors justement, on parle de la situation au Liban. On sait que Amos Hochstein, l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, était en Israël et toujours peut-être en Israël. Il a rencontré plusieurs responsables israéliens. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces discussions? Est-ce qu'on a eu des échos, Pascal?
Alors ce qu'on sait, c'est qu'Amos Hochstein s'est donc entretenu hier avec Benjamin Netanyahou et avec le ministre de la Défense, Israël Katz, de la réponse libanaise au plan de cessez-le-feu, puisque l'émissaire du président Biden venait de passer 48 heures à Beyrouth de discussion avec les dirigeants libanais. L'émissaire américain est ensuite reparti pour Washington. Les discussions ont avancé, mais il est encore trop tôt pour parler de véritables percées. Les deux principaux points qui restent à finaliser, ce sont le dispositif de contrôle international de l'accord de cessez-le-feu et le droit d'intervention qu'Israël réclame en cas de violation du cessez-le-feu par le Hezbollah ou de l'échec du dispositif de contrôle international à faire respecter l'accord. Donc pour l'instant, pas d'éléments nouveaux, pas d'annonces nouvelles sur la progression des pourparlers, mais ces pourparlers continuent et devraient donc se prolonger dans les jours qui viennent.
Alors on parle diplomatie justement, et c'est le gros dossier de la semaine. On l'a appris hier, hein, Pascal, la décision de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, contre Yoav Gallant également. Hier, on a eu des réactions évidemment du côté d'Israël. Hein.
Oui, des réactions unanimes à condamner la décision de la CPI. La décision antisémite de la Cour de la Haye est une affaire Dreyfus des temps modernes et elle finira de la même façon, a déclaré Benjamin Netanyahou. Aucune guerre n'est plus juste que celle qu'Israël livre à Gaza après que le Hamas nous a attaqué et lancé le pire massacre contre le peuple juif depuis la Shoah, a affirmé le premier ministre israélien, qui s'est encore insurgé contre le fait que la Cour de la Haye accuse Israël de génocide, alors qu'Israël fait l'objet d'une tentative de génocide. Donc des réactions évidemment très vives, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition israélienne, où on a qualifié la décision de la Cour de la Haye d'émettre des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant de souillure morale, de décision antisémite. Donc une véritable indignation et une, évidemment consternation de la part d'Israël après cette décision inique, mais évidemment avec maintenant la nécessité de faire face à ces accusations, puisque elles sont extrêmement violentes.
Alors justement. Justement, Pascal, comment ça va se passer pour la suite? Parce qu'on sait que plusieurs pays européens, dont la France notamment, ont dit qu'elles appliqueraient ces mandats d'arrêt. Qu'est-ce que ça signifie pour Israël? Est-ce que ça signifie que désormais, quand Benjamin Netanyahou mettra un pied en France, par exemple, il sera automatiquement arrêté?
Il faut savoir que au total, 124 États sont signataires du statut de Rome. Le statut de Rome, c'est cette convention internationale qui a mis en place la Cour pénale internationale de la Haye. Donc, ces 124 États sont censés respecter et appliquer toutes les décisions prises par la Cour pénale internationale de la Haye. Alors, petit rappel, seuls donc quelques États dans le monde ne reconnaissent pas la compétence de la Cour de la Haye, à commencer par Israël et aussi des États-Unis. Mais ça, évidemment, limite énormément la liberté de circulation à partir de maintenant du Premier ministre israélien, de Yoav Gallant aussi d'ailleurs, si Benjamin Netanyahou veut rencontrer des leaders étrangers. Maintenant, il prend le risque, évidemment, d'être arrêté dès qu'il mettra un pied sur leur sol, puisque vous l'avez rappelé, Ilana, par exemple, la France a déjà indiqué qu'elle se conformerait à la décision de la Haye. Donc ça va évidemment poser des problèmes énormes pour la diplomatie israélienne, avec un risque accru d'isolement diplomatique. Les contacts directs, les visites de dirigeants étrangers font évidemment partie des relations internationales. Et puis, il y a évidemment d'autres risques induits, le fait qu'encouragé par la décision de la CPI, certains pays prennent des décisions, par exemple, d'embargo économique ou d'embargo d'armes contre Israël, de boycott culturel, de boycott académique. C'est maintenant une véritable réaction en chaîne qui peut se mettre en place, alors même que la Cour pénale n'a fait que, si l'on peut dire, émettre des mandats d'arrêt. La procédure, de toute façon, contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant ne pourrait commencer que si les deux dirigeants israéliens étaient mis aux arrêts.
Alors, on l'a dit, les États-Unis sont du côté d'Israël, mais il n'y a pas que les États-Unis. Il y a le Royaume-Uni aussi qui a rejeté cette équivalence morale entre Israël et les groupes terroristes, l'Argentine, la République tchèque, la Hongrie. Aujourd'hui, comment Israël peut se défendre? Est-ce qu'il y a peut-être un moyen de faire appel? Alors, j'imagine que ce n'est pas le bon terme en matière de justice internationale, mais est-ce qu'il y a quand même une possibilité, Pascal?
Oui, toutes les issues ne sont pas bloquées. Il y a évidemment d'abord la question de voir comment l'ensemble de la communauté internationale va réagir à cette décision sans précédent de la Cour de la Haye. Il ne faut pas oublier que c'est la première fois que le Tribunal pénal international prend une décision d'arrêter les dirigeants d'un État démocratique, donc d'un État démocratique avec des institutions indépendantes, avec un système judiciaire indépendant. Cela peut aussi maintenant se retourner contre d'autres États démocratiques qui sont partis au statut de Rome. Donc il y a cet élément diplomatique. Il y a aussi évidemment des recours possibles sur le plan judiciaire. Pour l'instant, Israël étudie aussi la réaction, la façon dont elle va pouvoir réagir à cette décision de la Cour de la Haye.
Eh bien, on suivra évidemment tous ces développements avec vous, Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouve évidemment chaque matin et dès 6h. Merci beaucoup, Pascal. Rendez-vous tout à l'heure à 7h26. Et tout de suite, c'est l'essentiel de l'information avec Etienne Belaïch. Radio.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
6h15, l'essentiel de l'information avec Étanit Belaïch. Bonjour Étanit.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. 5 roquettes ont été tirées depuis le Liban contre la région de Haïfa dans le nord d'Israël dans la nuit. Ça a intercepté certains des projectiles. Aucun dégât n'a été signalé. Alors que l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Amos Hochstein, est toujours en Israël pour avancer sur une potentielle trêve entre l'État hébreu et le Hezbollah, le groupe chiite assure que Jérusalem sera tenu pour responsable en cas d'échec des négociations. Et ce, alors que le Liban a demandé des modifications à la proposition américaine. Joe Biden juge scandaleux les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Quoi que puisse sous-entendre la CPI, il n'y a aucune équivalence entre Israël et le Hamas, a précisé le président américain dans un communiqué. Enfin, la compagnie aérienne irlandaise Ryanair prolonge la suspension de ses vols vers Israël jusqu'à fin mars. De son côté, la compagnie israélienne El Al rapporte des bénéfices records depuis le 7 octobre 2023, des bénéfices en hausse de 260% depuis le début de la guerre.
Merci beaucoup Étanit, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 6h30 sur Radio J, 6h20, notre dossier d'histoire.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur Radio J et un peu d'ambiance et de bonne humeur ce matin avec ce titre que vous connaissez tous, évidemment, bande originale du film La Vérité si je mens, qu'on adore, Alabina de l'israélienne Ishtar Alabina. Excellent réveil sur Radio J. heures à la Bina, sur Radio J. Un très bon réveil à vous, les amis.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
C'était un 21 novembre, le 21 novembre 1880, il y a 144 ans. La naissance d'un des pères du sionisme, figure trop souvent oubliée et pourtant figure de proue de la résistance juive avant la fondation de l'État d'Israël. Joseph Trumpeldor, dentiste et fondateur de la Légion juive, un des premiers activistes sionistes connus pour son aide dans l'organisation de l'immigration des juifs vers le futur État d'Israël. L'occasion ce matin, avec vous Etanit, de lui rendre hommage et de revenir sur sa vie. Yosef Trumpeldor, né à Biatigorsk en Russie, fils d'un militaire de l'armée russe.
Mon père, Wolf Trumpeldor, est un grand militaire qui a servi 25 ans dans l'armée russe, ce qui lui vaudra un grand respect de ses supérieurs qui l'autoriseront, lui et sa famille, à vivre à l'ouest de l'Empire russe, en dehors de la zone dans laquelle les Juifs n'avaient normalement pourtant pas le droit de citer. Joseph fait par ailleurs ses premières études dans une école juive avant de rejoindre une école élémentaire russe. Toutefois, suite aux quotas imposés concernant les étudiants juifs, il n'est pas reçu à l'école secondaire.
Mais le jeune garçon est ambitieux et Joseph parvient à entrer dans une école dentaire, à suivre son enseignement jusqu'au diplôme. Aussitôt après, à seulement 22 ans, il entame un exercice en cabinet. Exercice toutefois qui ne l'enchante pas vraiment, hein, raison pour laquelle il décide de s'engager volontairement dans l'armée russe. Nous sommes alors en 1902, s'ouvre une période très difficile pour Joseph Trumpeldor.
Oui, lors de la guerre russo-japonaise entre 1904 et 1905, Joseph perd son bras gauche, puis est fait prisonnier pendant plusieurs mois. Handicap qui lui fera abandonner sa carrière de dentiste. Il est ensuite rapatrié en Russie où il reçoit 4 décorations pour ses faits d'armes, ce qui pour l'anecdote fait de lui le juif le plus décoré de toute la Russie. À la fin des hostilités, Joseph est même fait officier de réserve dans l'armée russe, une distinction à l'ordinaire interdite aux juifs.
Alors après l'armée, ayant abandonné ses études de dentiste, Joseph se dirige vers une carrière dans le droit et étudie à l'université de Saint-Pétersbourg. Puis il voyage et c'est le commencement d'une nouvelle vie. En 1912, Trumpeldor décide d'immigrer en Palestine, alors encore sous occupation ottomane, et vit dans un premier temps dans le kibboutz de Degania, au nord du pays. Il se revendique comme un anarcho-communiste et un sioniste. Les historiens disent d'ailleurs que son programme pour un réseau syndicaliste de communautés socialistes, présenté à la conférence sioniste de Romney en 1911, a eu une certaine influence sur la création des kibboutzim. Naturellement, Trumpeldor devient l'une des figures du sionisme de gauche.
Éclate ensuite la Première Guerre mondiale. Joseph a 30 ans, il est expulsé vers l'Égypte. Là-bas, il rejoint les Juifs palestiniens qui ont également été expulsés par les Turcs, mais il fait une rencontre déterminante, celle avec Vladimir Jabotinsky, autre activiste sioniste. Avec lui, Joseph envisage alors de plus en plus sérieusement la création d'une légion juive engagée aux côtés des Anglais pour affronter les Ottomans dans le but unique de libérer la Palestine qui deviendrait ainsi un territoire juif. C'est dans cette optique qu'en 1915, le groupe des Muletiers de Sion est fondé.
Rappelons d'ailleurs à l'occasion que le slogan Free Palestine, que l'on entend beaucoup aujourd'hui dans les milieux anti-israéliens, est en fait à l'origine un slogan sioniste, utilisé par les organisations sionistes mondiales pour dénoncer l'occupation étrangère, plus tard donc l'occupation ottomane, plus tard l'occupation britannique, et pour promouvoir l'Alia notamment. En tout cas, c'est complètement inédit à l'époque. Hein. Les Muletiers de Sion, c'est depuis 2000 ans le premier groupe paramilitaire, en quelque sorte exclusivement juif, qui voit le jour et qui constitue le point de départ historique des forces militaires israéliennes.
Joseph Trumpeldor participe avec l'unité à la bataille de Gallipoli, nous sommes en 1915, bataille au cours de laquelle le jeune homme se blesse gravement à l'épaule. Arrive la fin de l'année 1915 et l'unité est dissoute. Joseph travaille alors activement à la mise en place d'autres organisations militaires juives, à l'époque au service des Anglais, qui en effet toujours aux côtés de Vladimir Jabotinsky participe à la fondation en 1917 de la Légion juive, qui vise donc à apprendre aux jeunes jeunes juifs à se défendre. À cette époque, la Légion juive est donc encore placée sous l'autorité des Britanniques en passe de conquérir la Palestine. Mais pour les juifs sionistes, cette aide est une aubaine, même s'il faudra à terme s'en défaire pour obtenir l'indépendance.
Alors, de nombreuses personnalités, il faut le dire, ont servi dans la Légion juive, notamment David Ben-Gurion, Yitzhak Ben-Zvi. Avec eux, Trumpeldor fonde d'ailleurs ensuite, dans les années qui suivent, le mouvement Chehalutz, organisation qui aide les jeunes juifs à faire leur alia. Puis arrive l'année 1920, Joseph Trumpeldor a 40 ans, il est missionné par l'organisation d'autodéfense juive à Chomer pour protéger les localités juives agricoles en Galilée. Et malheureusement, les choses vont mal tourner. Au cours de son intervention, le 1er mars 1920, Joseph Trumpeldor est tué par des Arabes dans la localité de Tel Hai, qui signifie « colline de la vie » en français. Sept compagnons de Trumpeldor meurent également. Jusqu'au bout, Joseph croit pourtant en son message, comme il le dira au moment de sa mort. C'est bon de mourir pour son pays.
Et c'est assez émouvant dans une lettre adressée à son frère Shmuel en 1911, lettre quasi prophétique. Trumpeldor décrivait déjà son amour pour l'État d'Israël. « Nous serons là-bas, à la maison et non chez des étrangers. Je suis convaincu qu'un jour viendra où là est fatigué. Je regarderai avec joie et allégresse mes chants à moi, dans mon pays à moi, et personne ne me dira « Va-t'en, moins que rien, tu es étranger sur cette terre. » Et Trumpeldor qui ajoute « Mais si quelqu'un me parle ainsi, je défendrai avec la force et le glaive mes champs et mes droits. Et si je tombe au combat, je serai heureux. Je saurai pour quelle cause je tombe. »
Après sa mort, le village de Tel Hai est dépeuplé et n'est habité de nouveau qu'en 1921. Un monument à la mémoire de Joseph Trumpeldor y est inauguré en 1934. Et c'est de cette tragique histoire que vient d'ailleurs le nom de Kiryat Shmona, la ville des Huit. Tous les ans, à cette date du 11 Adar, qui correspond au 1er du mois de mars 1920, une cérémonie commémorative est organisée avec dépôt de fleurs. Et l'année dernière, elle avait donc lieu effectivement avec beaucoup d'émotions.
Et le lion de Tel Hai qui figure sur la statue commémorative dans le village reste le symbole héroïque de la résistance juive. Encore aujourd'hui, de nombreux militants sionistes se saluent en disant Tel Hai comme un hommage rendu à cet homme reconnu héros par tous les partis politiques d'Israël. Aujourd'hui, des rues portent le nom de Trumpeldor en Israël et son nom a aussi été donné au Betar, mouvement de jeunesse de la droite sioniste, baptisé ainsi en 1923 en souvenir de Trumpeldor. Betar, c'est tout simplement l'acronyme hébraïque de Brit Yosef Trumpeldor.
À sa mort, de nombreux hommages lui sont rendus, notamment par son très bon ami Vladimir Jabotinsky, qui dira dans son autobiographie « Avec un seul bras, je cite, il faisait plus de choses que ce que font et feront la plupart des hommes avec leurs deux mains. Tout son comportement était empreint de calme et de générosité. Depuis longtemps, il était végétarien, socialiste, il détestait la guerre, mais il ne faisait toutefois pas partie de ces pacifistes qui sont assis les bras croisés pendant que d'autres se battent pour eux. » Vladimir Jabotinsky, à propos de Joseph Trumpeldor. Yerushalayim, Shelzav sur Radio J.
Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 le Forum Radio J, l'émission politique historique de Frédéric Aziza.
Ce dimanche, je recevrai le maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamran.
Le Forum Radio J de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 14h10 uniquement sur Radio J. Radio J.
Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Radio J.
Le 6-9, Hylène Aferradian. Radio J.
Il est 6h30. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver ce matin, ce vendredi 22 novembre 2024. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, 413e jour de guerre en Israël. Et toujours, malheureusement, ne les oublions pas, 101 otages à Gaza. Et toute l'actualité avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
413e jour de guerre donc en Israël. Il avait 19 ans seulement. Le sergent Ron Epstein est mort au combat à Gaza.
Il s'agit du 804e soldat de Tsahal tué depuis le 7 octobre 2023. Originaire de Necher, Ron Epstein faisait partie de la brigade Givati. Il a été tué à Jabalia par des éclats d'obus. Deux autres soldats ont été légèrement blessés au cours de ce combat. Et puis au nord, hier à Nahariya, un soldat, un civil israélien, a été tué et plusieurs blessés suite au tir de roquettes du Hezbollah contre la Galilée. Le groupe chiite a lancé une quarantaine de roquettes vers le territoire israélien. Par ailleurs, une salve de 5 roquettes a été tirée vers Haïfa dans la nuit. Aucun dégât n'a été à signaler.
Et puis au nord, les opérations de Tsahal se poursuivent avec une série de frappes menées hier à Dahriye.
Selon la banlieue sud de Beyrouth, un dépôt d'armes, des centres de commandement et d'autres infrastructures ont été utilisées par le Hezbollah et ont donc été détruites. Pendant ce temps, les négociations pour un cessez-le-feu au Liban se poursuivent. Des progrès ont été réalisés, selon Amos Hochstein, l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient. Après son voyage au Liban, le diplomate a rencontré hier en Israël le chef de l'exécutif israélien ainsi que son ministre de la Défense et le chef d'état-major de Tsahal.
Un jour noir pour la justice. Réaction hier de Benjamin Netanyahou suite à la décision de la Cour pénale internationale contre lui.
Hier, la CPI a en effet émis des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien, mais aussi son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Des mandats émis pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre selon la juridiction. En réaction, le chef du gouvernement israélien a dénoncé une décision politique et antisémite. Écoutez.
Le tribunal international de La Haye, qui a été créé pour protéger l'humanité, est aujourd'hui devenu l'ennemi de l'humanité. Ce tribunal partial a décidé d'émettre des mandats d'arrêt contre l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, et moi, au faux motif de crime contre l'humanité, alors qu'en vérité, nous faisons tout le contraire. C'est une faillite morale. Cela viole le droit naturel de l'humanité. Les démocraties doivent se protéger du terrorisme meurtrier. Le même tribunal, qui nous accuse de crimes fictifs, ignore les véritables crimes de guerre. Des crimes de guerre choquants, commis contre nous et contre bien d'autres dans le monde.
Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui ne pourra pas compter sur le soutien de la France, tout comme les Pays-Bas ou encore l'Italie et le Canada, qui ont annoncé qu'ils appliqueraient ces mandats d'arrêt. Écoutez Sébastien Lecornu, le ministre français des Armées, hier sur CNews.
En aucun cas, ces mandats d'arrêt qui sont personnels contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant ne doivent conduire à remettre en cause le fait que l'État d'Israël a le droit de se défendre et que ce droit de légitime défense est un droit issu justement du droit international. Le même droit international dit aussi des choses, notamment évidemment en matière d'accompagnement, en matière de lutte contre les famines, en matière d'accompagnement sanitaire, dans la manière même de faire cette guerre, c'est-à-dire sur les dommages collatéraux sur les victimes civiles. Et donc ça sera évidemment à la CPI de faire ce travail en droit de justifier aussi ces mandats d'arrêt pour venir expliquer pourquoi ils ont été émis. Moi, je ne veux pas évidemment me prononcer là-dessus, mais il est clair que des explications seront à donner.
Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.
Et Israël qui bénéficie néanmoins de l'appui de plusieurs pays, dont les États-Unis.
Nous serons toujours aux côtés d'Israël face aux menaces qui pèsent sur sa sécurité, assuré hier soir le président américain Joe Biden, qui a jugé scandaleuse cette décision. Idem du côté du Royaume-Uni qui affirme rejeter l'équivalence morale entre Israël et les groupes terroristes que sont le Hamas et le Hezbollah. L'Argentine, la République tchèque et la Hongrie ont aussi manifesté leur soutien à l'État hébreu.
Le reste de l'actualité, c'est la guerre en Ukraine avec une nouvelle frappe de missiles balistiques russes sur la ville de Dnipro.
Dans un discours à la nation, le président russe Vladimir Poutine a démenti l'utilisation d'un projectile intercontinental, mais a confirmé l'emploi d'un nouveau type de missile hypersonique.
En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé une frappe sur des installations de l'industrie de défense ukrainienne. L'un des plus récents systèmes de missiles russes à moyenne portée a été testé dans des conditions de combat. Il s'agit d'un missile balistique doté d'une ogive hypersonique non nucléaire. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre nos installations. Et en cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons de manière décisive et réciproque. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement.
Vladimir Poutine, qui estime que le conflit en Ukraine a désormais tout d'une guerre mondiale, il prévient qu'il n'exclut désormais plus de frapper les pays occidentaux.
Merci beaucoup Etanit, on vous retrouve dans 10 petites minutes sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
35 minutes, vous restez avec nous. Vous le savez, vendredi, ce soir, c'est Shabbat, entrée à Paris, 16h44, sortie à 17h54. On ira à la paracha Raye Sarah et c'est tout de suite le Dvar Torah du rabbin Mevorar Zerbi. Brave, bonjour.
Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. La paracha Raye Sarah aborde une question extrêmement importante et très intéressante et je dirais très moderne. En effet, il y a dans cette paracha la problématique du choix de l'âme sœur. Eh oui. Et en plus de ça, c'est pas simple, puisque celui qui va devoir choisir, c'est même pas le marié, mais c'est le serviteur du père du marié. Alors c'est le pauvre, on va dire le pauvre. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors il va donner des principes qui sont très intéressants. Premier principe, eh bien, c'est d'agir avec sincérité et honnêteté. Très important cet aspect. Bon, à part cela, il va falloir prier. Et oui, là, ce que Eliezer va formuler, si la jeune fille, c'est en fait une prière qu'il est en train de formuler. Et la bracha, la tefila, quelque chose de fondamental pour trouver l'âme sœur. Enfin, quoi chercher ? Ah, il y a un grand rave qui a dit, je vais vous dire, pour trouver l'âme sœur, il faut se concentrer sur trois choses. Il faut bien retenir trois choses. Alors, je reprends comme c'était un rave ashkenaz. Il disait, midos, traduction, midot, qualité. C'est les qualités de cœur, les qualités de comportement, et c'est ben voilà, c'est le fondamental. Alors quand Eliezer va chercher, il va mettre l'accent sur le chesed, la bonté, la générosité, la jeune fille qui va voir la délicatesse d'aller au-delà de ce qu'on lui demande. On lui demande de boire, elle va dire mais je vais donner aussi à boire à tes animaux. Pourquoi veux-tu donner à boire aux animaux? Parce que elle a donné à boire à cet étranger qu'elle ne connaît pas, de sa cruche, et dit à Tine et à Mikader, donne-moi de ta cruche. Il a bu dans la cruche. Mais c'est peut-être ce monsieur, il est peut-être porteur de maladie, de je sais pas, elle va amener la cruche avec les microbes à la maison. Non, mais elle va pas jeter l'eau devant ce monsieur, ça se fait pas. Alors à dire, bah je vais jeter le reste de la cruche pour les chameaux. Mais le problème c'est que les chameaux, une cruche ça leur suffira pas. Eh ben c'est pas grave. Elle ira puiser et c'est extraordinaire parce que la première fois on lui dit que l'eau est venue vers elle. Elle a même pas eu besoin de puiser parce que c'est donc elle a pas eu besoin de puiser. Alors que quand c'était pour les chameaux, vatishav le chol, elle a puisé pour tous les animaux. Et donc c'est ce recette de cette finesse, de cette délicatesse que Rivka va avoir de faire du bien à une personne, mais pas en mettant en danger sa propre famille. Il y a quelque chose. Mais si Eliezer a insisté sur le chesed, c'est parce que c'était la complémentarité de Yitzhak qui était din, Yitzhak qui était la rigueur, qui était cette dimension de cette rigueur. Et donc, le mariage, c'est pas trouver l'équivalent, mais trouver le complémentaire. Et ça, c'est pas toujours évident, mais il doit avoir un équilibre qui se fait. Et c'est ça, Ezer Kenegdo, une aide contre. Une aide qui va aider, mais qui peut être contre des fois, pour qu'il y ait un équilibre. Et c'est très intéressant parce que celui qui s'occupe, qui est l'émissaire, mais c'est pas marqué dans le texte, on le sait, on l'expliquera tout à l'heure, c'est à 10h30, on va aborder cette problématique. Qui est ce personnage qui n'est pas cité? On l'appelle le doyen, Zekan Beto, le doyen d'Abraham, le Evet, plus souvent le serviteur, l'homme, Haïch, c'est Eliezer. Ça, on va consacrer tout à l'heure, à 10h30, une réflexion sur Eliezer. C'est très important. Et Eliezer, ça veut dire Élie, mon Dieu, Ézer est un aide. Or, Ézer, c'est justement le principe de la femme. Ah, voilà. Donc, il y a ici tout le principe. Eliezer, on réfléchit tout à l'heure sur le personnage, sur sa place, tout ce qu'il amène. Quelque chose de fondamental. Cet après-midi, on abordera des halakhot concernant la nourriture qu'on doit donner aux animaux, etc. Et puis bon, on aura l'occasion de réfléchir. Mais pour l'instant, rendez-vous tout à l'heure à 10h30. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Guy Chabes, Shabbat Shalom, Omevorar.
Du rabbin Mevorar Zerbib, c'est tous les matins sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Radio J. Les enfants de la République. Tous les dimanches sur Radio J à 9h, au micro de Frédéric Aziza.
Ce dimanche, je recevrai le producteur de spectacle, l'empereur du théâtre parisien, Jean-Marc Dumonté.
Les enfants de la République, c'est tous les dimanches à 9h, uniquement sur Radio J. Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Et tout de suite, c'est Micro-Sion, votre carte postale d'Israël avec Xavier Nataf.
Nahum Gutman était un peintre, sculpteur et auteur israélien d'origine moldave. Il a contribué à créer un style typiquement israélien, s'éloignant des influences européennes de ses professeurs. Il a travaillé avec de nombreux supports différents, huile, aquarelle, gouache et plume et encre. Quatrième enfant de Simcha Alter et de Rivka Gutman, la famille déménage dans un premier temps à Odessa, puis, 2 ans plus tard, en Palestine ottomane. En 1912, il étudie à l'école Betzalel de Jérusalem et de 1920 à 1926 part étudier l'art à l'étranger, à Vienne, Berlin et Paris. En vous baladant dans Tel Aviv, vous pourrez certainement voir de ses œuvres dans des lieux publics. Ses sculptures et mosaïques de couleurs vives, comme les peintures murales intérieures illustrant l'histoire de Tel Aviv, dans l'aile ouest de la tour Shalom et dans le bâtiment du Grand Rabbinat. Ou également une fontaine en mosaïque installée à l'extrémité sud du boulevard Rothschild. Le style artistique de Gutman était éclectique, allant du figuratif à l'abstrait. En plus de son activité d'art plastique, Nahum Gutman était également un écrivain et illustrateur de livres pour enfants bien connu.
Micro-Sion, cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'Organisation sioniste mondiale.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
One of these days these boots are gonna walk all over you.
Merci de nous rejoindre. Et si un sac Chanel à 1 euro vous tente, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis. Ce week-end, c'est le salon du vintage. Le salon du vintage qui revient à Paris avec de belles surprises, effectivement, ce samedi 23 et dimanche 24 novembre. Le salon du vintage fait son grand retour, une édition 100% mode avec 2 sacs Chanel qui sont en vente à un prix
imbattable. Alors vous connaissez tous hein, le site Vestiaire Collective où on peut revendre ces objets de luxe. Eh bien si Vestiaire Collective n'était pas un site mais un magasin, c'est sans doute à ça qu'il ressemblerait, ce salon du vintage. Une soixantaine de stands vont prendre place dans le 4e arrondissement de Paris à l'occasion pour cette nouvelle édition. Les organisateurs ont donc sélectionné des pièces rares et uniques signées des plus grands créateurs. Un cadre prestigieux et une atmosphère intime. Les habitués de cet événement créé par Laurent Journaud l'auront remarqué, hein, l'adresse a changé après 10 ans au Carreau du Temple. Le salon du vintage s'installe au cœur du Marais dans l'ancien musée Pierre Cardin. Un cadre prestigieux donc idéal pour cette édition dédiée à l'excellence de la mode vintage. Une nouvelle édition qui marquera le lancement d'un partenariat exceptionnel également avec un site de vente et d'achat, le site Whatnot. Et pour marquer le coup, deux sacs timeless de chez Chanel seront mis aux enchères donc à partir de 1 euro. Alors bonne chance hein, pour ceux qui pensent pouvoir obtenir ces sacs. Je pense qu'il faudra s'y rendre extrêmement tôt samedi donc et dimanche de 10h à 19h. Ancien musée Pierre Cardin. C'est pas gratuit, hein, c'est gratuit pour les moins de 8 ans, mais pour les adultes, c'est quand même 10 euros l'entrée. Ça se passe au 5 rue Saint-Méry dans le 4e arrondissement.
Radio J.
Le 6-9. Hélène Ferradian.
6h45 minutes, l'essentiel de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. 5 roquettes ont été tirées depuis le Liban contre la région de Haïfa dans le nord d'Israël dans la nuit. Tzal a intercepté certains des projectiles. Aucun dégât n'a été signalé. L'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Amos Hochstein, est toujours en Israël pour avancer sur une potentielle trêve entre l'État hébreu et le Hezbollah. Le groupe chiite assure que Jérusalem sera tenue pour responsable en cas d'échec des négociations. Et ce, alors que le Liban a demandé des modifications à la proposition américaine. Joe Biden juge scandaleux les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense Yoav Gallant. Quoi que puisse sous-entendre la CPI, il n'y a aucune équivalence entre Israël et le Hamas, a précisé le président américain dans un communiqué. Enfin, la compagnie aérienne irlandaise Ryanair prolonge la suspension de ses vols vers Israël jusqu'à fin mars. De son côté, la compagnie israélienne El Al rapporte des bénéfices records depuis le 7 octobre 2023. Des bénéfices en hausse de 260% depuis le début de la guerre.
Merci beaucoup Etanit. On vous retrouve évidemment tout au long de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité 7h15, 7h, le journal d'Israël.
Le 6-9, Radio J.
Radio J.
Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins en direct. Et nous sommes en direct avec Robert Egenès, directeur du Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation si tôt ce matin, mais pour parler, c'est vrai, de ce sondage très important. 12% des Français qui se réjouiraient de voir les Juifs quitter le pays, c'est ce que révèle effectivement un sondage Ipsos pour le CRIF, Robert. Alors quelles sont justement vos premières impressions après ces chiffres et qu'est-ce qu'on peut en tirer véritablement ?
Alors d'abord, c'est un sondage que l'on fait, c'est ce qui est la quatrième ou cinquième vague d'un sondage qu'on fait tous les 2-3 ans. Donc il nous donne aussi une perspective historique sur ce que pensent les Français de l'antisémitisme et des Français juifs. Bien entendu, celui-là est mauvais, il est plus mauvais que les derniers, les chiffres sont négatifs et nous en sommes inquiets. Ceci étant, je crois qu'il révèle ce que nous savons, ce que nous pensons, ce que nous vivons au quotidien, puisque ça fait des mois, notamment depuis le 7 octobre, qu'on parle de cette augmentation de l'antisémitisme en France, et on voit que toutes ces attaques contre Israël, notamment, puisque on s'aperçoit qu'il y a un antisémitisme qui nous vient de LFI, toutes ces attaques finissent par porter sur le moral des Français dans leur estimation par rapport à l'antisémitisme aux Français juifs.
Alors, vous parlez justement de LFI. C'est vrai que 20% des sympathisants LFI souhaitent une France sans juifs contre 15% chez les partisans du RN. On voit aussi des disparités au niveau des jeunes, notamment. Ça, c'est plutôt inquiétant aussi. De plus en plus de jeunes qui montrent des positions anti-israéliennes, voire anti-juives maintenant.
Hein. Ouais. Alors ça, c'est vraiment l'évolution la plus critique. C'est celle de la jeunesse et ce qui montre ce que nous avons à faire vis-à-vis de cette jeunesse, puisqu'une jeunesse qui se trouve notamment de plus en plus anti-israélienne. Mais ce qui ne peut pas nous étonner après toutes ces attaques contre Israël depuis le 7 octobre que nous avons vu, que nous avons vécu, qui sont elles-mêmes, et ça fait des mois et depuis le 7 octobre qu'on le dit, et des années d'ailleurs, que l'antisionisme est une nouvelle forme d'antisémitisme.
Alors par ailleurs, donc on peut retrouver évidemment tous les résultats de ce sondage sur Internet. Vous allez organiser aussi ce week-end justement pour évoquer tous ces sujets, ces problématiques de l'antisémitisme, la grande convention nationale du CRIF. Ça se passe ce dimanche, hein, Robert?
Ça se passe ce dimanche à la Maison de la Chimie, et c'est la convention annuelle, elle a lieu tous les ans, et elle a l'objectif de réfléchir la société française, réfléchir de tous ces courants qui transforment, qui nous transportent dans la société, parler d'Israël, mais aussi parler de la France, parler politique, parler de l'antisémitisme, mais pas que, parler des autres minorités. Donc on aura une convention très riche cette année, avec deux moments très forts qui seront la plénière de midi à vers 11h, pendant laquelle Brice Teinturier viendra commenter ce sondage qu'il a lui-même dirigé, le directeur d'Ipsos. Et nous aurons ensuite la plénière de clôture avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur.
Alors ça commence à 9h45, des conférences débats pour s'achever le soir. On peut encore y participer si des auditeurs nous écoutent?
Bien sûr, vous pouvez avoir tout le programme et vous pouvez vous inscrire sur le site du CRIF, sur internet, crif.org. Donc vous avez tout le programme, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez venir une partie de la journée, vous pouvez vous inscrire gratuitement, l'entrée est gratuite. Vous pouvez venir au déjeuner débat, ceux-là sont payants. Mais sinon, l'entrée est totalement libre et gratuite pour tous. Donc, venez à la convention. Il y aura beaucoup de monde, beaucoup de discussions.
Eh bien, merci beaucoup. À noter que de la restauration cachère sera disponible aussi sur place toute la journée. Merci. Merci infiniment, Robert Egenès, directeur du CRIF. Et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci.
Radio J, le 6-9, l'NFR Radio.
Vous restez avec nous sur Radio J, 6h50. Et tout de suite, c'est Chaim Nissenbaum pour Un jour, une mitzvah. Chaim, bonjour.
Bonjour à tous. C'est encore le Shabbat qui, évidemment, retient notre attention. À propos des téfilines, justement, on sait qu'on doit les mettre chaque jour, sauf le Shabbat et les jours de fête. Pourquoi cette abstention? Eh bien, essayons de le découvrir. C'est que les textes de la Torah déterminent, parmi les mitzvot, les commandements de Dieu, trois qui sont qualifiés de signes, de témoignages. Il s'agit de la Brit Mila, la circoncision, du Shabbat et des Téphilines. Tous trois sont donc les signes, les témoignages que les Juifs sont bien les serviteurs de Dieu. Un principe talmudique veut qu'un fait, pour qu'il ait existence légale, soit confirmé par deux témoins. Il en va de même ici. Ces trois mitzvot sont donc les trois témoins que nous sommes étroitement liés à Dieu. Mais ces témoins, nous ne les avons pas tous constamment. En effet, la circoncision ne nous quitte pas. Mais le Shabbat, second témoin, ne nous rejoint qu'une fois par semaine. Alors quand il arrive, nous ne mettons pas les téphilines. On l'a dit, deux témoins suffisent. Toutefois, les autres jours, il convient de les mettre au contraire, car alors, le Shabbat n'étant pas là, il nous manque un témoin. Ce sont les téphilines qui jouent ce rôle. Nous entrevoyons ici toute l'importance, peut-être sans pareil, tout à la fois des téphilines et du Shabbat, qui se remplaçant tour à tour l'un l'autre, nous affirment chaque jour qui passe que notre lien avec Dieu est éternel. Bonne journée à tous.
Bonne journée, Chaim Nissenbaum. Chaim, on vous retrouve évidemment au quotidien sur Radio J et tout à l'heure à partir de 7h05 pour votre billet pré-shabbatique comme chaque vendredi.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tout à l'heure au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Il est la fée radiant.
Radio J. Et un point
sur l'infotrafic avec cette tempête qui touche la France depuis hier matin. Et l'Île-de-France n'est pas épargnée. Les premiers flocons de neige sont tombés en début de journée hier et n'ont épargné aucun département de la région parisienne, provoquant quelques perturbations dans les transports en commun, mais aussi sur les routes franciliennes. Alors l'heure est à la prudence, notamment pour les transports scolaires, face aux risques encourus avec les éventuelles averses de neige et la présence de verglas sur les routes. La vigilance est de mise ce vendredi. Les transports scolaires sont suspendus dans tous les départements de la Grande Couronne, à savoir l'Essonne, les Yvelines, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne. Et puis, du côté des transports en commun, beaucoup d'éléments ce matin sur les lignes de RER. D'abord sur la ligne D, le trafic est interrompu entre Malesherbes et Juvisy via Ris-Orangis dans les deux sens jusqu'à 7h30. Sur la ligne A également, trafic très perturbé de Maisons-Laffitte vers Cergy-le-Haut. Et puis, si vous empruntez, les amis, les lignes de Transilien, sachez que la circulation est interrompue sur la ligne L entre Versailles-Rive-Droite et Saint-Cloud, et entre Saint-Doux-la-Bretèche et Saint-Cloud. Trafic interrompu également sur la ligne R de Montargis vers Melun. Sur la ligne U, interrompu entre la Défense et la Verrière jusqu'à 8h30. Bref, renseignez-vous les amis avant de prendre la route. Et puis sur les routes d'Île-de-France, l'heure est à la prudence. On le répète, roulez au pas, restrictions de circulation notamment sur la Nationale 118 pour les poids lourds et fermeture de l'accès depuis Charenton, le pont centre.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Elles sont fortes, elles sont fières, elles sont juives et en colère. Le collectif Nous Vivrons se rassemblera demain à Gare du Nord, notamment en raison pour cette grande manifestation, vous le savez, contre les violences faites aux femmes. Ça s'était pas très bien passé l'an dernier. Pour en parler, nous sommes avec Sarah Eisenman, présidente du collectif Nous Vivrons. Bonjour Sarah. Sarah, est-ce que vous m'entendez ? On a perdu la connexion avec Sarah Eisenman. Sarah Eisenman qui va effectivement être avec nous dans quelques instants, puisque c'est important, cette manifestation, cette marche pour dénoncer l'usage des violences sexuelles et sexistes. On vous entend, Sarah, bonjour.
Super, pardon. Je me suis juste mise en mute. Et justement, c'est pour mieux préparer.
C'est ça.
La marche de demain où on le fera carrément pas.
Alors, merci beaucoup, Sarah, d'être avec nous. Effectivement, une marche, on le disait, qui, déjà l'année dernière, ne s'était pas très bien passée, mais vous avez décidé de réitérer. Pour vous, il faut montrer justement que les Juives sont là.
Effectivement, l'année dernière, le 25 novembre dernier, on a marché contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes pour porter la voix des victimes israéliennes et dénoncer à cette époque, il y a un an, le silence assourdissant des féministes à l'égard des viols commis par le Hamas. On a été empêchés de marcher. En quelques minutes, un mur d'antifa nous est tombé dessus, les CRS sont intervenus et on a finalement dû être exfiltrés pour des raisons de sécurité. Donc on n'avait pas quitté la place de la Nation. C'était la marche partait de la place de la Nation l'année dernière. On est retourné dans un rassemblement similaire le 8 mars 2024, à l'occasion de la grève féministe, journée de la femme comme chacun le sait. Cette fois-ci, on a pu démarrer, on a marché aussi, la tête haute, avec fierté pour défendre nos valeurs, porter notre combat. On a aussi fini par être exfiltrés sous des jets de bouteilles en verre, sous des jets d'œufs, à coups de sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes, mais on n'a rien lâché. À nouveau, la police s'est interposée pour nous protéger, hein, comme à chaque fois.
Oui.
On y retournera demain. Et on a bon espoir de pouvoir, cette fois-ci, marcher de la Gare du Nord jusqu'à la place de la Bastille. Mais en tout état de cause, ce ne sont pas les antisémites qui dictent le rythme en France.
C'est ça.
La rue ne leur appartient pas.
C'est le mot d'ordre.
Comme vous l'avez dit en intro, on est forte, on est fière, on est juive. Et en colère, et je crois qu'on a de quoi d'être en colère depuis un an. Et là, notre message sera le suivant. Ça fait un an qu'on fait face à une explosion de l'antisémitisme sans précédent. Et en plus de cette explosion de l'antisémitisme, les antisémites veulent invisibiliser, veulent silencier les juifs et les juives en les accusant d'agiter l'antisémitisme à tort et à travers, d'une part, et en transformant la victime juive en bourreau, en la nazifiant, hein, pour mieux la déshumaniser. C'est non, ce sera toujours non pour nous, et c'est ce qu'on viendra dire demain en nombre, et on appelle le plus grand nombre de vos auditrices et de vos auditeurs à nous rejoindre. Il faut qu'on soit là, On ne peut pas lâcher le terrain. On n'a pas peur. Notre place, elle est en République.
Alors, on n'a pas peur.
Je pense que c'est des antisémites.
On n'a pas peur, donc, ce samedi à 14h de Gare du Nord à Bastille. Pour ceux qui s'inquiètent quand même pour leur sécurité, il faut dire qu'il y aura un service d'ordre, hein, Sarah.
Bah, écoutez, c'est du militantisme. Donc, le militantisme, avec tout ce que cela implique, naturellement, comme à chaque fois que le collectif Nous Vivrons mène une action, on prévient les forces de police, on prévient les organisations communautaires et on fait au mieux pour assurer la sécurité de toutes nos militantes. On n'est pas non plus des têtes brûlées, hein, qu'on soit très clair, on agit en responsabilité. Maintenant, c'est du militantisme, ça reste une manifestation.
Eh bien, merci beaucoup, Sarah Eisenman. Le collectif Nous Vivrons, qui sera là pour dire non aux violences faites aux femmes demain, non à l'invisibilisation des victimes juives et non à l'utilisation des crimes sexuels comme arme de la haine antisémite. Donc, rendez-vous à 14h demain, samedi 23 novembre à Gare du Nord. Merci beaucoup, Sarah, et je vous dis à très bientôt. Vous restez avec nous dans quelques instants, le journal d'Israël avec les studios Kalita, notre correspondant Olivier Granit. Et puis juste après, vous le savez, hein, vos rendez-vous habituels du vendredi matin avant Shabbat, Chaim Nissenbaum, la chronique culture de Xavier Nataf avec ce film, mon film coup de cœur d'ailleurs de la semaine, les amis, La plus belle des marchandises. On en parlera avec Xavier Nataf. On sera aussi avec Eli Korshia en direct d'Israël pour une belle mitzvah qu'il organise. À tout à l'heure.